Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Vous suivez bien la radio Inzambarate Kakawe, c'est l'heure du journal de ce vendredi 31 mars 2023. Tout d'abord les titres. L'affaire Kila Hospital est instrumentalisée et ceci provoque l'ire des principaux actionnaires qui viennent d'adresser une lettre au tribunal de grande instance de Moura, lettre dans laquelle ils expriment leur opposition à cet état de fait. Des fraudes s'observent en ce moment au cours de la passation des examens du deuxième trimestre en province Makamba. Les enseignants crient au scandale. Nous sommes le 31 mars 2023 et c'est la date butoir qui avait été fixée par le bureau burundais de normalisation pour ne plus voir le moindre emballage en plastique. Mais le constat, comme vous l'entendrez dans ce journal, est que l'usage du plastique se fait comme à l'accoutumée. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le corps sans vie d'un homme connu sous le nom de Vincent Rassaou Moutima a été trouvé dans la matinée de ce vendredi, gisant en dessous d'un pont construit en bois sur la rivière Mandassi, séparant les communes Kayaza et Gatala. Le défunt, âgé de 30 ans, habitait la colline Muhingira de la commune Gatala. Les administratifs à la base disent que le corps ne présentait aucun signe qui serait dû à la criminalité. Ils penchent plutôt sur une mort accidentelle survenue après que l'homme a glissé pendant qu'il essayait de traverser le pont. Les habitants de la localité demandent à l'administration d'ériger un pont solide sur la dite rivière afin de prévenir d'autres accidents. Les actionnaires majoritaires de Kila Hospital ont adressé ce jeudi une lettre au tribunal de grande instance de Moura s'opposant à ce qu'ils qualifient d'instrumentalisation de leur société Kila Hospital dans le dossier opposant le ministère public au docteur Christophe Sahabo. Pour eux, la gestion de l'hôpital avait toujours été collégiale et non individuelle. Ils demandent avec insistance de retirer leur société du dossier RP 4437, au cas contraire, ils saisiront les instances judiciaires compétentes. Maître Gustave Nyozima, qui suit de près cette affaire, nous interprète le contenu de cette correspondance.
Hier, en date du 30 mars 2023, les actionnaires majoritaires d'Okira Hospital, représentés par Dr David Pilo et Augusteva Zahicha, ont adressé une lettre à la présidente du tribunal de grande instance de Moura pour que la société commerciale Kira Hospital S.A. soit retirée dans le dossier RP 4437 opposant le ministère public contre le docteur Sahab Christophe. Il s'oppose à la manipulation de la société commerciale Kira Hospital S.A. dans le dossier RP 4437. Pragmatiquement, leur dénonciation vise beaucoup plus l'obstruction et l'immixtion de la direction AI et du conseil d'administration AI de Kira Hospital, donc dans l'organisation judiciaire du tribunal de grande instance par rapport au dossier RP 4437 en cause du ministère public contre Dr Sahab Christophe. Il y renchérisse dans cette lettre en arguant que la gestion de l'hôpital a toujours été collégiale et non individuelle sur le sentier au texte réglementaire. Ils disent que jusqu'à présent, il n'y a aucune entorse de la gestion, que ce soit dans la consignation au niveau des procès-verbaux du conseil d'administration ou c'est de l'Assemblée générale. Il y termine en disant que la direction intérimaire d'Okira Hospital, qui gère les affaires courantes, peut engager la société devant les tiers et encore moins devant la justice.
C'était maître Gustave Nyonzima. Libération du chef de la colline Mutambala en commune de province Lumongue, Kashini Sivan, a passé 2 semaines dans les cachots du commissariat de Lumongue. Il avait été accusé le 15 mars dernier d'avoir courtisé une femme mariée. Les habitants de cette localité se sont insurgés contre ces accusations, selon eux infondées, précisant qu'il a été victime de s'être opposé à l'expropriation d'une propriété se trouvant sur sa colline dans la localité de Kayangé. Le gouverneur de la province avait récemment nommé un autre chef collinaire qui le remplace provisoirement, ce qui a suscité une inquiétude chez les habitants de cette colline qui demandent que Gachin Sylvain soit réhabilité dans ses fonctions. Joséphine Dons, Mouzimana pour les détails.
Les habitants de la colline de Mutambara étaient venus en masse jeudi pour accueillir leur chef de colline. Ils entonnaient des chansons en l'honneur de Gachin Sylvain, chef collinaire qui venait d'être libéré après une semaine de détention au commissariat provincial de la police de Lomongue. Lors de son arrestation, Gachin Sylvain avait été accusé de courtiser la femme de son voisin. Les habitants de la colline de Mutambara parlent plutôt d'un montage de la part du gouverneur de province de Lomongue qui veut écarter Gachin Sylvain. Celui-ci a refusé de signer une attente visant à délocaliser plus d'une vingtaine de familles de la localité de Kanyang à Mutambara. Les occupants parlent de l'oppression sans égale. Cependant, ce jeudi, l'administrateur de Lomongue avait nommé Mariam Horizana comme responsable collinaire à l'intérim, en attendant que la justice prononce sur le cas du chef collinaire détenu. Quelques heures plus tard, le tribunal de grande instance l'a libéré provisoirement. Selon les informations recueillies dans cette province de Lomongue, le chef collinaire avait été libéré très longtemps, mais il y avait eu l'opposition de l'autorité provinciale. Les habitants de Lomongue ne savent pas à qui s'adresser entre les deux. Ils demandent à l'administration de trancher. En outre, une autre personne est détenue pour la même affaire car il a dit ouvertement au gouverneur de Lomongue que la détention du chef collinaire est illégale et sans fondement. Il a écopé de 3 ans de prison ferme et une amende. Jusqu'à présent, le chef collinaire bénéficie de la présomption d'innocence. La radio Inzamba a contacté par téléphone le gouverneur de province de Lomongue pour qu'il nous éclaire et relève ses inquiétudes des habitants de Mutambara, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Inzamba.
Rendons-nous dans le sud du pays. Les enseignants de différents établissements, dont la province Makamba, dénoncent les fraudes qui s'observent pendant la passation en cours des examens de fin du deuxième trimestre. Selon les sources simples des enseignants, de nombreux élèves travaillent avec des questions d'examen déjà corrigées, d'autres passent des examens l'avant-midi et ces mêmes examens sont faits par leurs camarades dans l'après-midi. Eddie Claude, Nina Zenzon dit plus.
Selon plusieurs enseignants, les examens de ce deuxième trimestre sont émaillés de fraudes dans plusieurs directions communales. Les directions communales de l'éducation ont exigé la passation des examens communaux choisis par les enseignants dans des réseaux scolaires. Selon ces enseignants, certains enseignants procèdent à la correction des examens aux élèves alors que cela est déontologiquement interdit. Selon plusieurs sources, le pire est que les mêmes examens sont aussi fraudés par certains directeurs et maîtres responsables. Les cas les plus alarmants sont déjà signalés dans la direction communale de l'éducation à Nyanzarak. Ces enseignants donnent des exemples d'écoles comme le lycée communal Notre-Dame d'Irosaire de Nyanzarak, l'écofo Nyanzarak 6. Et pour les mêmes sources, les responsables de ces examens sont attrapés dans les mains de certains enfants, des directeurs d'école ou maîtres responsables. Dans la direction communale de l'enseignement à Nyanzarak, certains enseignants disent que ces élèves qui ont bénéficié de ces examens font payer 1000 francs à leurs camarades pour qu'ils leur donnent ces examens fraudés. Dans les autres directions communales et de l'éducation, certaines directions font passer le même examen avant et après-midi pour des classes doubles, ce qui fait que ceux qui passent cet examen avant midi le donnent à leurs camarades de l'après-midi. Ces enseignants disent que non seulement ces examens sont fraudés, mais aussi les examens communaux ne sont pas autorisés car seuls les examens de réseaux sont reconnus par le ministère en charge de l'éducation. Ils accusent leurs directeurs communaux de l'éducation d'exiger ces examens pour se procurer de l'argent, surtout que chaque élève paie une somme allant de 1500 à 2000 francs destinée à la saisie et impression. Ils demandent que les auteurs de ces fraudes soient punis. Et suite à toutes ces lamentations, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version du directeur provincial de l'éducation à Makamba.
Et c'est le dernier jour du mois de mars et les sacs en caoutchouc et d'autres emballages en plastique sont toujours utilisés dans le pays, malgré le deadline du 31 mars imposé par le Bureau burundais de normalisation BBN. Du nord au sud du pays, la population en général et les commerçants en particulier s'approvisionnent au moyen de ces emballages non biodégradables, constat fait par nos correspondants. Plus de précision avec Signaline Nzimbele.
C'est un défi qui n'a pas encore trouvé solution malgré la mesure de mise en garde du Bureau burundais de normalisation BBN contre l'usage de ces produits en caoutchouc bannis par le gouvernement burundais. En province de Makamba, la population apprécie positivement la mesure du gouvernement, mais ne trouve pas d'autres alternatives pour couper court avec l'utilisation de ces produits non biodégradables.
En principe, on pouvait appliquer cela après avoir prévu des bouteilles de rechange. Maintenant, les commerçants ont perdu la tête. Ils ne voient pas comment ils vont continuer à travailler. Et lorsqu'ils disent aux consommateurs de se charger eux-mêmes des emballages, c'est une grosse erreur, car l'huile de palme qui est déjà emballée est facile à vendre, même pour un passager. Ce n'est pas fréquent, par exemple, pour un homme de quitter la maison avec une bouteille pour acheter de l'huile. Mais aujourd'hui, c'était facile. Ceci aura des conséquences, et pour les commerçants, et pour la taxe communale.
À Makamba comme ailleurs, la mesure est loin d'être respectée, du moins dans les délais requis par le Bureau burundais de normalisation. Nous nous sommes rendus au marché de Kayanza, là-bas, impossible de croire, selon les commerçants, qu'en date du 31 mars, les emballages de substitution seraient déjà disponibles dans cette ville de Kayanza.
Les clients seront en difficulté, car ils étaient habitués à acheter une bouteille de 2400 francs, d'autres pour 2800, et un bidon s'achète à 7000 francs. Donc, si on utilise seulement les bidons qu'on nous a recommandés, ceux qui achetaient de l'huile de palme pour 2400 francs n'en seront plus servis.
Les habitants de Kayanza réclament un autre délai dans la mise en application de cette mesure. Et dans l'entretemps, le gouvernement applique à mettre en place d'autres moyens de rechange.
Un constat amer pour les défenseurs de l'environnement, ma mère Savushimike, indique que c'est le fruit de la mauvaise gouvernance au Burundi. Ce défenseur de l'environnement appelle le gouvernement burundais à s'inspirer de l'expérience des pays de l'EAC qui ont réussi dans ce projet. Suivez ma mère Savushimike.
La mesure d'interdire l'importation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets et autres emballages en plastique n'a pas produit des effets, n'a pas produit de progrès, n'a pas été mise en application pour les défis suivants. D'abord, le gouvernement n'a pas prévu les emballages de substitution. Si le gouvernement devrait prévoir les éléments de substitution, les emballages de substitution, le défi n'aurait pas eu lieu. Le gouvernement a laissé certaines usines produire ces sachets, tandis que les autres usines ont été interdites de produire ces produits d'emballage. Troisième défi, c'est que le gouvernement ne contrôle pas exactement, n'a pas du tout à lever tous les sachets qui sont éparpillés dans tout le pays. Le grand problème qui paralyse la protection de l'environnement au Burundi, c'est la mauvaise gouvernance des autorités du Burundi. J'appelle le gouvernement burundais de prendre conscience de l'importance de protéger l'environnement tel que c'est fait dans les pays de l'EAC. L'exemple que je peux donner, il y a le gouvernement rwandais, le gouvernement ougandais aussi et le gouvernement du Kenya. Les autorités burundaises peuvent se servir de ce modèle de ces trois pays de l'EAC pour protéger l'environnement au Burundi. Le gouvernement burundais peut envoyer ses cadres et ses agents aller faire des visites, des échanges d'expériences et d'informations dans ces trois villes de l'EAC et revenir mettre en application les informations qu'ils ont reçues.
Ma mère, Saushimi, qui est défenseur de l'environnement. Les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie ont transformé en marché les rues se trouvant à l'intérieur de ce camp. C'est après la décision du gouvernement tanzanien de fermer tous les marchés du camp. Ils demandent aux autorités tanzaniennes de mettre à leur disposition d'autres marchés pour qu'ils puissent continuer d'exercer leur petit commerce. Janvier Hawaludia.
Ce projet a déjà été mis en œuvre sur les principaux marchés du camp de Nduta, à savoir ceux de la zone 7 et de la zone 13. Selon nos sources sur place, les réfugiés de la zone périphérique du camp, c'est-à-dire ceux de la zone 19, y ont été installés. Pour le moment, ces réfugiés ont mis en place des marchés dans les rues à l'intérieur du camp, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur eux.
Nous observons un phénomène inhabituel où les réfugiés par manque de marché ont envahi les rues du camp et les ont transformées en marche. Aujourd'hui, on trouve dans les rues du camp des centaines de vendeurs et d'acheteurs ayant étalé des marchandises, mais tout en surveillant l'arrivée des véhicules de la police. Cela est risqué pour les réfugiés car, quand ils voient ces véhicules, tout suit en masse. Femmes portables de bébés au dos, femmes enceintes, vieillards et petits-enfants, tout se fuit en masse et nous voyons que si les choses restent ainsi, les gens vont mourir un jour dans la bousculade. Nous demandons au gouvernement tanzanien de réouvrir les marchés pour que la catastrophe n'arrive pas un jour, mais nous faisons aussi cette demande parce que pour nous, cette mesure de fermeture de marché est vide de sens.
Il convient de souligner que cela fait suite à la décision du gouvernement tanzanien de fermer tous les marchés à l'intérieur de Soka, prise en août de l'année dernière. Les obligés estiment que cette décision a été prise en violation de la loi régissant les obligés.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vos chères auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Agréable week-end à tous. Au revoir.